Simone, là aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons discuter de ton ouvrage paru en 2006 chez Hachette Littérature, Plaidoyer pour l'enfant roi. Alors, comment est-ce que cette idée de dédier un ouvrage à l'enfant roi t'est venue? Parce que c'est dans l'air du temps probablement, mais tu en dis d'emblée un certain nombre de choses qui sont à contre-pied.
Oui, qui sont tout à fait à contre-courant de ce qu'on dit sur l'enfant et sur l'enfant roi en particulier. Et la première idée, c'était une collection de chez Hachette Littérature où ils proposaient à des auteurs de s'insurger contre une idée reçue. Bon, alors là, donc, l'idée reçue, c'est que ces enfants rois sont d'horribles petits personnages tyranniques, qui connaissent pas les limites, qui n'acceptent plus aucune autorité, où les adultes sont complètement impuissants face à eux. Et moi, ça correspond pas du tout à ce que je vois dans la clinique, ni quand je regarde autour de moi dans la société, ni quand je lis le journal et que je vois ce qui se passe dans le monde. Je trouve que l'enfant roi, il n'est pas si roi que ça. Et que donc, je trouve qu'il y a quelque chose à rectifier. Et en plus, je trouve que cette idée de l'enfant roi, qui est vraiment une idée un peu symptôme, je dirais c'est un symptôme de notre société moderne. Pourquoi on avance tout d'un coup cette idée, qui est vraiment répercutée partout, les médias, des tas de livres qui ont paru sur ce sujet, pourquoi tout d'un coup on veut comme ça s'en prendre aux enfants? Et je trouve qu'il y a quelque chose même un peu dévalorisant à l'égard de l'enfant. Un peu péjoratif. C'est une image péjorative de l'enfant. Et je trouve que là, on bute sur un paradoxe absolument fondamental de notre société par rapport à l'enfant, le statut de l'enfant. C'est-à-dire que d'une part, cet enfant, il est idolâtré, il est au centre de tout, on le veut, on a droit à l'enfant, on revendique le droit à la parentalité, il semblerait qu'on lui fait une place énorme, on lui achète tout ce qu'il veut, etc. Mais, de l'autre côté, on ne le traite pas du tout si bien que ça, même on le met à rude épreuve. L'enfant est confronté à des choses extrêmement compliquées dont il se débrouille comme il peut, et ça c'est une autre de mes idées, c'est que je trouve que les enfants ont une énorme intelligence pour se débrouiller de ces situations compliquées.
Au fond, il me semble que c'est un plaidoyer aussi pour le droit à l'enfance, et à l'enfance dans toutes ses dimensions, qu'il ne soit pas trop malmené par l'ambivalence des adultes. Alors vous diriez que c'est plutôt un livre de psychanalyse, un livre de sociologie ou un livre de réflexion psychanalytique sur la société telle qu'elle est en ce moment?
Je me hasarde là un petit peu sur un terrain où on dit qu'il faut être prudent. Est-ce que le psychanalyste a le droit de porter un regard sur les phénomènes de société? Bon, moi je sais que ça me passionne, les phénomènes de société, donc j'ai quand même eu envie de mener une réflexion, mais où je mélange un peu la clinique quand même, parce que je pense qu'il n'y a aucune pensée psychanalytique possible qui ne s'insère vraiment dans les moments cliniques, mais ça s'articule avec des réflexions, oui, qui sont peut-être d'une autre nature, mais avec une idée quand même de pluridisciplinarité. Il y a tout ce qu'ont pu dire les anthropologues, tout ce qu'ont pu dire les sociologues, les historiens sur l'enfance, je trouve vraiment très important pour nous, psychanalystes qui nous occupons d'enfants. Sinon, on n'a pas cette perspective de quel enfant on s'occupe. Il y a toute une histoire derrière ça. Ou quand je pense aux travaux de Marcel Gauchet sur la personnalité contemporaine, maintenant il écrit sur l'enfant d'ailleurs aussi, je trouve que ça nous apporte énormément de choses. Et les historiens qui montrent que contrairement à des idées reçues, là encore, l'enfant, il était très important, il avait une place affective importante au Moyen-Âge, et probablement même avant. Et je trouve que c'est important pour nous d'avoir un peu toutes ces perspectives.
Au début de ton ouvrage, il y a un passage assez émouvant où on sera nombreux de ton âge ou des deux, trois classes d'âge qui précèdent ou qui succèdent à se retrouver. Tu parles d'une enfance en Hollande, dans une famille manifestement très sereine, et tu insistes sur la pérennité, la continuité, la tranquillité et en même temps la richesse aussi des échanges. Alors, est-ce que tu es un tantinet nostalgique en la matière, et comment est-ce que tu arrives à manier le paradoxe entre l'enfant roi d'aujourd'hui et ce qu'il en est de l'enfant et de l'adolescente en toi aujourd'hui.
Oui, c'était là, donc, si on veut avoir une vision un peu sociologique, ce serait une enfance dans les années 50. Hein, bon. Et je trouve, oui, c'est important quand même de voir d'où on parle. Moi, le regard que je jette sur l'enfant d'aujourd'hui, il est quand même en rapport avec cette enfance que moi j'ai connue dans les années 50. Hein, et alors, sans être nostalgique, parce que ma position, c'est quand même de dire ce qui se passe est intéressant. Hein. Ça m'intéresse de voir ce qui se passe. Ça m'intéresse de voir ce que ça va devenir. Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place, plutôt que de dire oh là là, c'est moins bien, c'était tellement mieux avant, etc. C'est différent. Mais les différences sont intéressantes. Donc, effectivement, alors, si, comme ça, globalement, si on devait donner comme ça une impression de quelqu'un qui a connu ces années 50, c'est de trouver que c'était plus tranquille, en tout cas dans le milieu, le pays où moi j'étais, hein, je ne dis pas que c'était tranquille partout, et que ce qui caractérise ce monde d'aujourd'hui, avec mon regard, c'est quand même l'agitation, la multiplication, les possibilités infinies qui sont où il faut se retrouver. Et je crois que là, les enfants nous donnent une espèce de leçon. Ils montrent quand même comment s'y retrouver. Ils trouvent leur stratégie pour s'y retrouver. Et puis, ils sont à l'image de ce monde moderne.
Mais à propos de ce que vous dites là, et dans la perspective un peu de la question de Sylvain, on a eu un grand débat, il continue d'ailleurs, je crois, entre le bébé observé et le bébé reconstruit. Est-ce que vous pensez qu'il y a un peu la même dialectique entre l'enfant roi observé tel qu'on le décrit, tel qu'on l'a sous les yeux aujourd'hui dans nos groupes socioculturels, et l'enfant roi reconstruit, peut-être celui dont vous parlez à propos de vous-même, je ne sais pas.
Alors, par rapport au bébé, oui, observé, enfin, le bébé réel et le bébé reconstruit, il me semble qu'à l'heure actuelle, quand même, ce débat, il est un petit peu caduque, non ? Par rapport, oui, c'est vrai, il me semble maintenant que on arrive à articuler ces deux. On ne les oppose plus. Enfin, moi, personnellement, je ne les opposerai pas. Et est-ce que dans les cliniques dont on s'occupe maintenant, je pense, la clinique du handicap, par exemple, la clinique des cas difficiles, la clinique de l'autisme aussi, est-ce que ça ne nous amène pas à remettre en question cette opposition entre un enfant qui serait l'enfant réel et l'enfant qui serait un enfant reconstruit? Est-ce qu'on ne peut pas... La question, c'est de savoir si on peut penser les deux choses en même temps. Est-ce que c'est incompatible? Est-ce que les cliniciens peut penser ces deux, tenir compte de ces deux apports en même temps? Ou est-ce qu'il y aurait incompatibilité des positions et qu'on est soit dans l'un, soit dans l'autre? Mais nous tenons compte quand même maintenant beaucoup de toutes ces études expérimentales qui ont été menées et qui sont d'une extrême richesse.
Mais en tout cas, il me semble que l'une des richesses de votre réflexion, c'est d'articuler quand même.
Oui.
La manière dont on regarde l'enfant aujourd'hui est probablement l'idéalisation ou toute l'ambivalence sur l'enfant qu'on a été, qu'on craint d'avoir été, qu'on espère avoir été.
C'est ça. C'est qu'est-ce qu'on fait de... Comment on vit avec l'enfant qu'on a été, en quelque sorte? Qu'est-ce qu'on en fait de cet enfant qu'on a été? On vit comment avec lui?
Et est-ce que c'est à travers lui qu'on regarde l'enfant?
Oui. Bon, je crois que de toute façon, c'est ce que je dis dans mon livre, que l'enfant roi, c'est une tout enfant est une projection du narcissisme des parents. Bon, ça c'est une évidence, Freud nous l'a bien montré, hein, avec Sa Majesté le Bébé. Et donc cet enfant roi est aussi une projection du narcissisme parental. C'est-à-dire que là où il y a une certaine hypocrisie, c'est qu'on vilipende cet enfant roi qui a tous les défauts, on lui reproche d'être superficiel, de zapper d'une chose à une autre, d'être exigeant, etc. Mais en réalité, c'est le reflet de l'adulte contemporain. Le tableau que fait Marcel Gauchet de l'adulte contemporain correspond exactement à le portrait qu'on pourrait faire de l'enfant roi. Mais après, on le reproche. On le reproche, c'est que non seulement il voit bien que les adultes font, hein, il voit bien comment les adultes agissent, qu'ils ne tiennent pas compte de tous les interdits, tu ne lis jamais un livre jusqu'au bout. Ben les adultes, on sait bien que maintenant les adultes ils lisent aussi moins des livres jusqu'au bout. Enfin, il fait... Donc on lui reproche toutes les choses que les adultes font, et on lui reproche aussi toutes les choses qui en réalité sont les requis de la société contemporaine. C'est quoi le grand mot du monde du travail? C'est la flexibilité. Il faut être flexible. Eh ben, les enfants rois, ils sont très flexibles.
Alors, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que l'idéalisation de l'enfance, c'est une forme indirecte, peut-être, mais quand même, d'agressivité?
Ça se pourrait. C'est une hypothèse que je ferais. Oui. D'une agressivité qui, évidemment, n'est pas nouvelle. Elle n'est pas de nos jours. L'enfant, quand même, c'est celui qui pousse les parents à une génération plus loin, plus proche de la mort, qui évoque quand même le fait qu'ils vont vieillir, et avec, bon, la crainte du vieillissement qu'il y a actuellement, hein, cette tendance à vouloir rester toujours jeune et bien portant, etc., etc. L'enfant, il met ça à mal. Et plus fondamentalement, l'enfant est quand même un étranger, un peu persécuteur. Enfin, il y a tous ces fantasmes sous-jacents, quand même, de ce que c'est qu'un enfant d'étrangement inquiétant, hein, tellement proche et tellement différent aussi, finalement.
Alors, pour aller dans le sens de la question de Bernard sur l'hypothèse d'une forme d'agressivité, hein, dans ses messages en direction des enfants. Est-ce que tu considères que ce que tu soulignes vraiment avec insistance dans ton livre, c'est-à-dire le fait que nous les programmons, les enfants, hein, et qui sont l'objet d'un choix de plus en plus, hein, en termes en particulier
oui.
de maîtrise de la sexualité, de la filiation, hein, avec ce vacillement des frontières qui est omniprésent au fil des pages, est-ce que tu dirais qu'en effet, l'agressivité parentale potentielle s'exprime déjà dans la programmation et la maîtrise de la sexualité, et à un moment donné, tu dis, ça pourrait même aller, ou ça peut déjà aller, jusqu'à la remise en cause du fantasme de scène originaire.
Oui, et puis on pourrait même aller plus loin. Alors, ce que je souligne aussi, ce phénomène quand même étonnant de la baisse du taux de natalité, qui est un phénomène étrange, hein. Tout à fait inattendu. Les démographes sont très surpris de voir à quel point ça va vite et à quel point c'est dans tous les pays du monde. Hein. C'est pas du tout réservé à certains pays. Ça pose quand même question. Enfin, on peut quand même se dire, cet enfant si désiré, si programmé, est-ce que c'est, on pourrait aussi le déprogrammer, hein. On passe comme ça d'un versant à l'autre. Et on veut absolument un enfant, mais il doit aussi être parfait, il doit pas trop déranger non plus. Donc on pourrait aussi bien ne pas en avoir. Et puis il y a ce narcissisme parental dont on peut se poser la question quand même si au fond ils ont vraiment besoin d'un enfant maintenant pour développer leur narcissisme. Il y a peut-être d'autres moyens maintenant de projeter ce narcissisme. Bon, on peut... Un des aspects de ça, c'est quand même de voir à quel point beaucoup de femmes investissent maintenant une vie professionnelle très satisfaisante, très, très, très stimulante. Et il manque plus rien. S'il manque plus rien, pourquoi faire un enfant, d'une certaine manière? Enfin, il me semble qu'il y a quelque chose comme ça, là, qui se dessine quand même à l'horizon.
Oui, mais alors, dans ce que vous dites, il me semble qu'il y a une véritable question au niveau de, on pourrait dire, l'anthropologie du désir.
Oui.
Bien, à votre avis sur cette question.
Oui.
Parce que, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas dans les sociétés occidentales qui maîtrisent un tant soit peu la contraception, on maîtrise beaucoup plus la contraception d'ailleurs que la conception, mais enfin, en tout cas la contraception, vouloir un enfant, c'est plutôt cesser de ne pas en vouloir.
Oui.
Ce qui n'est pas tout à fait pareil, et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus.
Mais oui, j'aime bien le mot, l'anthropologie du désir. C'est-à-dire que le désir d'enfant a une dimension anthropologique évidente, de tout temps. Ça, pourquoi on fait des enfants pour perpétuer l'espèce, hein. Mais on dirait qu'à l'heure actuelle, cette dimension anthropologique, justement, elle est en train de disparaître à la limite, puisque c'est devenu un désir purement personnel. Avoir un enfant, parce qu'on a envie d'avoir un enfant, parce que c'est valorisant, parce qu'on veut s'occuper d'un enfant, parce qu'avec tel partenaire, on a envie d'avoir un enfant. Ce sont des paramètres personnels, hein. Et on dirait que les paramètres anthropologiques, dans la mesure où l'individu contemporain ne s'inscrit plus tellement dans les données anthropologiques, hein, c'est je m'autorise de moi-même, je m'auto-détermine. Je ne suis plus déterminé par des filiations, par des données transgénérationnelles qui m'échappent. par d'autres, qui me sont imposées par d'autres. Je m'impose moi-même, je suis libre, je m'affranchis de toutes ces contraintes. Et du coup, l'enfant, effectivement, n'est plus dans cette dimension anthropologique. Parce que, oui, pourquoi on fait des enfants ? Ben, il y a quand même, pour perpétuer l'espèce, et puis parce qu'on a envie d'avoir un enfant. Mais là, si disparaît cette idée, que cette inscription dans quelque chose d'anthropologique, là, on est confronté direct au désir personnel, qui est quand même plus aléatoire, enfin, qui on peut désirer ou ne pas désirer.
Alors, pour complexifier le tout, tu décris dans de bonnes pages la remise en cause, peu ou prou, de ce qu'on a beaucoup nommé ces derniers temps chez nous, à partir de la planche, la situation anthropologique fondamentale.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a, finalement, ces noyaux durs de toute l'affaire. Il y a un grand, un petit,
oui, oui, oui.
Et énormément d'éléments culturels, anthropologiques, se retrouvent enracinés là. Alors, tu opposes à ça, de façon sociologique, parce que nous, on sait bien que cette situation-là, de dissymétrie, elle est au cœur de la cure type et de la position psychanalytique. Et elle est vraiment générique, mais tu la remets en cause, tu dis qu'elle est remise en cause sociologiquement par la façon dont on gouverne dans les familles, avec des positions démocratiques, où il faut que l'enfant, qui a des droits sur le plan juridique, puisse être à l'égal de l'adulte. Alors, quel est ton sentiment là, de deux façons? D'abord sur le tableau sociologique et sur ses méfaits, tu parles même de perversité à certains moments. Et puis toi, comment tu fais, en tant que psychanalyste, pour manier les deux langues, hein, c'est-à-dire la sociologie de la démocratisation et puis la vision psychanalytique de la situation anthropologique ?
Alors peut-être que l'article 2 permet d'éviter de psychopathologiser certains symptômes ou certains comportements qu'on va mettre en avant, pour lesquels on vient nous consulter, ou dans les institutions, on veut envoyer chez le psy parce que l'enfant, il a tel ou tel comportement. Et qu'on a un peu tendance à verser dans la psychopathie. Il travaille pas bien à l'école, on l'envoie chez le psychiatre. Enfin bon, alors qu'il y a peut-être à voir aussi quel est le rapport de cet enfant avec l'école, ou quel est le rôle de l'école par rapport à l'enfant, etc. Donc là, je verrais un lien donc entre la sociologie, la psychanalyse. Et tu parlais de cet enfant qu'on considère comme un égal. Alors là, c'est encore un paradoxe fondamental, parce que il y a cette différence anthropologique fondamentale, hein, que la planche a très très bien décrite, le petit et le grand, et la dépendance. La néothénie de l'être humain, hein, et qui fait qu'il est dépendant de l'autre pendant très longtemps quand même. Et puis il y a ce versant historico-sociologique qui fait qu'on ne peut pas ne pas penser que dans ce mouvement de démocratisation, le rapport adulte-enfant va aussi être transformé, tout comme le rapport patron-employé, homme-femme, le roi et le sujet, etc. Pourquoi ça y échapperait ? Ça ne va pas y échapper. Il est bien clair que ça modifie les rapports entre les adultes et les enfants, qui vont se faire sur un mode plus démocratique, avec donc les discussions. L'enfant actuel est un discutant, est un grand discutant. Et on négocie, on discute, au désespoir de certains, l'agacement, qui disent « mais c'est pas possible, on va quand même pas discuter 2 heures pour savoir si tu vas aller te laver les dents ou pas ». Enfin, il y a des excès, bien sûr. Mais moi, je trouve qu'il faut pas méconnaître. Enfin, ce que je vois en tant que clinicien avec les familles que je reçois, je trouve que les parents ont un dialogue formidable avec leurs enfants. Il y a beaucoup de parents parle beaucoup avec les enfants et écoute beaucoup les enfants et ont beaucoup de plaisir à parler avec leurs enfants. Ils découvrent que c'est très intéressant d'être à l'écoute de ces enfants. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, nos enfants, finalement. Donc, il y a l'instauration de ce dialogue sur un mode plus démocratique, mais qui se heurte quand même au fait que cet enfant qu'on considère comme un égal, il est quand même dépendant de l'adulte. Alors, comment continuer sur cette ligne de pensée si on pense que c'est incompatible? Alors là, C'est la butée, on ne voit plus très bien. Alors, il faut revenir à l'autorité, il faut leur mettre des limites, il faut apprendre aux parents, etc. Bon, mais est-ce qu'on ne peut pas penser les choses autrement, en les opposant moins et en pensant que ça amène à trouver d'autres modes de relations? Et c'est là où moi, je trouve qu'il faut s'intéresser à ces nouvelles stratégies parentales et des enfants. Ils cherchent, dans les familles, on cherche. Ce sont des chercheurs, les enfants et les parents, et ils trouvent des nouvelles modalités qui permettent de sortir, paf, de ce conflit, où sinon on n'avance plus, quoi, on se heurte à des obstacles.
Alors, ce que je trouve extrêmement important, c'est que votre réflexion ne concerne pas que nos sociétés occidentales, qui sont ce qu'elles sont, mais malgré tout un petit peu protégées, et vous avez une vision qui va très au-delà. Et vous avez quelques pages terribles qui font la recension de tout ce que les enfants peuvent subir ici ou là en termes d'enfants esclaves, d'enfants soldats. Et alors ça rejoint d'ailleurs ce que dit François Marty aussi, qui dit que l'adolescence, à sa manière également, est un peu idéalisée et que probablement on est quand même à l'une des époques de l'humanité la plus adolescenticide, c'est le mot qu'il prend.
Oui.
Et on voit effectivement un immense nombre d'adolescents se faire massacrer. Donc on revient à la question de l'ambivalence, parce que c'est celle qui pour moi est peut-être la plus importante, c'est que cette idéalisation de l'enfant cache quand même, via l'ambivalence, une hostilité.
Une hostilité. Mais on pourrait écrire le plaidoyer pour l'adolescent, hein, parce que l'adolescent aussi, il y a une image de l'adolescent qui est potentiellement délinquant, hein. Tout adolescent, il y a une certaine image où tout adolescent est dangereux, violent, en ce moment. Voilà. Et qu'il faudrait faire le plaidoyer pour tous les nombreux adolescents qui ne sont pas du tout qui sont plus agressés qu'agressifs. On retrouve la même idée, hein, qu'on donne une image à l'adolescent qui serait agresseur. Et on ne parle pas beaucoup de ce que les adolescents subissent comme violence de toutes sortes, oui.
C'est un prochain livre.
Non, parce que moi, je pars toujours donc d'une situation clinique que je connais bien. Bon, remarquez, les adolescents, j'en vois, c'est pas vraiment. Non, le prochain, c'est les pères.
Est-ce que un des masques de cette ambivalence et parfois de cette agressivité, ça serait pas aussi ce qu'on a vu et ce qu'on voit encore avec l'éloge des compétences du bébé?
Oui.
Une bonne page où tu mets en exergue le paradoxe entre les compétences du bébé et les parents de plus en plus incompétents. Tu pourrais nous dire ton sentiment là-dessus?
Oui, alors bon, les compétences des bébés, d'abord ça peut aller dans le sens de l'idée, ben de toute façon, il est compétent, il a tout ce qu'il faut, il n'y a rien besoin de lui apporter. Ce qui peut aller un peu faire alibi pour des parents qui sont très 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 occupés par leurs affaires professionnelles, leurs affaires affectives, amoureuses, etc. Les sorties, les week-ends. Et bon, ça peut faire, c'est un peu pratique, quoi, de se dire, ben de toute façon, il pousse tout seul, il est compétent, hein. Ça sert à ça, un petit peu. À méconnaître, eh ben, que cet enfant, il a besoin des adultes. Il a besoin de temps. Il a besoin de disponibilité. Ça, ce sont des choses qui sont du luxe de nos jours. Le temps et la disponibilité pour les enfants. Donc, ça peut servir dans ce sens-là, hein. Les compétences. Mais attends, tu me disais une autre.
La compétence des parents.
Oui. Alors, là, oui. Bah oui. Alors, évidemment, il y a le phénomène Internet qui a quand même introduit là une espèce de renversement assez spectaculaire, où les enfants ont accès à des tas de connaissances sans passer par les adultes, et où même ils ont des compétences que leurs parents n'ont pas. Et bon, c'est classique, les parents qui font appel à leurs enfants pour venir les dépanner avec l'ordinateur. Maintenant, peut-être que c'est une génération intermédiaire et que maintenant les nouveaux parents, les jeunes parents, sont peut-être extrêmement compétents parce qu'ils ont été élevés là-dedans depuis tout petit. Hein, ça concerne peut-être une génération qui a eu lieu là entre deux. Mais n'empêche que, quand même, les enfants ont accès à beaucoup de choses sans passer par les adultes. Donc du coup, ça remet en... Ça modifie un petit peu le statut de ces adultes, aussi bien enseignants d'ailleurs que parents.
En même temps, je crois que ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est que vous ne vous ne cherchez pas à renforcer le sentiment d'incompétence chez les parents. Parce qu'il faut faire attention à ça, je crois. Hein.
Oui. Dans
une société d'expertise où on a le sentiment qu'il faut une réponse technique pour chaque problème, faire entendre aux parents qu'ils sont plus incompétents qu'il y a 50 ans, vous faites bien attention de ne pas s'engager dans cette voie.
Non, parce que je pense que les parents aussi cherchent, hein, cherchent et essayent de trouver des modalités comme ça pour, avec cet enfant. Et qui sont très soucieux de l'enfant. La plupart des parents sont très très soucieux de leur enfant, très très intéressés par leur enfant aussi. Oui, effectivement, il faudrait surtout pas stigmatiser les parents. Mais c'est ce qu'on fait quand même avec toutes ces histoires autour de l'autorité, en disant les parents ne savent plus mettre des limites à leurs enfants. C'est-à-dire que là, on les considère un peu comme des nuls quand même. Hein. On fait quand même des descriptions de parents complètement dépassés par les événements, démunis, incapables. Je trouve que c'est là où il y a l'image de l'incompétence quand même. Et que la seule chose qu'ils devraient faire avec leurs enfants, c'est de leur mettre des limites. Il y a autre chose aussi, enfin, il n'y a pas que ça.
On en a parlé, quand vous disiez, Simone et Bernard, que tu avais lié dans ton livre Anthropologie, Sociologie et Psychanalyse, mais j'aimerais revenir sur la façon dont tu as recours à la psychanalyse au fil des pages. Tu le fais avec toujours beaucoup de clarté didactique, hein, c'est-à-dire que on imagine que des lecteurs non psychanalystes arrivent vraiment à piger ce que tu décris. Et tu le fais aussi comme si la psychanalyse avait vraiment, au jour d'aujourd'hui, des options à défendre. Alors, est-ce que tu penses effectivement que la psychanalyse va pouvoir rester vivante au troisième millénaire, et de quelle façon ?
Alors, moi, je pense que oui, même si je vois bien dans la situation actuelle qu'on est drôlement menacé, drôlement attaqué. Mais moi, ça m'étonne presque, à la limite, que les gens ne se rendent pas compte de l'outil extraordinaire qu'est la psychanalyse. Quelle théorie permet de rendre compte du fonctionnement psychique ? Il n'y en a pas d'autre, il n'y a que la psychanalyse. Enfin, pour moi, mais d'une manière vraiment de rendre compte de comment fonctionne l'esprit humain, comment les gens réagissent, comment les gens pensent, comment les gens appréhendent le monde, comment un enfant arrive au monde et trouve les moyens d'appréhender ce monde, de se situer dans un groupe social, de se situer dans une relation d'objet, comme nous disons. Et pour moi, il n'y a guère que la psychanalyse qui permet ça. Et puis, l'autre chose qui me paraît absolument essentielle, c'est la question de l'inconscient. C'est-à-dire que la psychanalyse donne les outils d'aller voir ce qui se cache derrière tout ce qui est affiché de manière latente, et de montrer que derrière tout ce qui est latent, il y a derrière ce qui est manifeste, il y a des choses latentes. Hein, et que c'est la dimension inconsciente de la vie psychique qu'on constate tous les jours. Tout le monde sait bien quand même qu'il lui arrive toutes sortes de choses qu'il n'a pas vraiment décidé, qu'il lui arrive, ou qu'il a des sentiments tout d'un coup, qu'il découvre, qu'il ne pensait pas avoir. Enfin, c'est toute une dimension, la richesse de la vie psychique, l'ambivalence, le fait qu'on peut en même temps aimer et détester. C'est courant, tout le monde vit ça tous les jours. Eh ben, il n'y a guère que la psychanalyse qui permet d'expliquer ça. Donc, alors, moi, je me fais une vision effectivement un peu idéalisée et je me demande comment on pourrait s'en passer. On préfère ne pas savoir tout ça. Et on préfère surtout, oui, ne pas penser. On est quand même dans une société, on a l'impression parfois que il vaut mieux éviter. On fait tout pour que les gens ne pensent pas. Mais je ne suis pas sûre qu'on puisse empêcher les gens de penser. C'est là où je suis plus optimiste. Freud a donc mis un peu dans le même paquet le primitif, l'animal, l'enfant. Enfin bon. Mais c'est sûr qu'il y a un rapport entre l'enfant et l'animalité. C'est-à-dire que d'abord, les enfants ont un rapport extrêmement spontané avec les animaux. Puis toute la culture enfantine, elle est peuplée d'animaux. Hein. Peut-être, sans dire que l'enfant il est comme un animal et que l'éducation consiste à le sortir de cette animalité, mais ce qui est quand même une idée. Hein. Et, je pense à il y a des tableaux du XVIe siècle flamands, des portraits d'enfants. Et ben les portraits d'enfants sont toujours représentés avec des animaux. Il y en a un par exemple que j'ai là qui est extraordinaire, une petite fille. D'un côté elle tient un petit poisson et de l'autre côté il y a un chat. Et on explique, les critiques d'art expliquent que c'est toute une symbolique autour de ce chat représente des instincts que l'enfant aussi a, qu'il faut réprimer, et donc il faut repousser le chat et l'empêcher d'attraper ce petit poisson. Mais et c'est toute l'éducation, c'est toute une symbolique autour de l'éducation qui est donc conçue quand même depuis toujours aussi comme cet enfant, il est envahi par des pulsions qu'il faut réprimer. Et Freud le reprend bien quand même. C'est à certains, enfin, il a des positions un peu contradictoires sur l'éducation, mais à certains moments, il dit quand même que l'œuvre de la civilisation, c'est de réprimer quand même les pulsions qui ne sont pas compatibles avec la vie en société. Mais moi, je dirais que si on veut maintenant, avec la pensée contemporaine, avec tous les travaux contemporains sur l'humain et l'animal, qui montrent quand même que les frontières sont beaucoup moins... cette espèce de coupure anthropologique qu'on pose entre l'animal et l'humain. Maintenant, il y a des gens comme l'Estelle qui disent, mais il ne faut pas les opposer, ils font tous partie du monde des vivants. Ce sont deux formes du monde des vivants, deux formes, et qui se rencontrent, qui s'influencent, etc. Et donc finalement, l'enfant, ben, c'est peut-être aussi pour nous une ouverture sur ce monde du vivant beaucoup plus large, d'une certaine manière. Et c'est peut-être ça qui fait peur, et c'est peut-être ça qu'on veut agresser, repousser.
Vous disiez que vous étiez optimiste sur l'avenir de la psychanalyse. Vous êtes optimiste sur l'avenir des enfants ?
Alors, je suis optimiste quant aux capacités de l'enfant à se sortir des situations extrêmement compliquées et difficiles. Et je trouve qu'ils inventent des choses, ils sont perspicaces, les enfants. Ils comprennent les situations. C'est incroyable comment les enfants comprennent leurs parents. Ils savent comment soit les protéger, soit les mettre en difficulté quand ils en ont envie. Enfin, ils savent très bien faire ça, les enfants. Donc, je suis assez confiante dans les possibilités des enfants. Mais quant au sort qu'on fait aux enfants, la situation qu'on leur fait, là, je serais peut-être moins optimiste. Je trouve que c'est assez inquiétant, même, la place qu'on leur fait. Enfin, tout ce qui pèse sur eux, quand même. Et puis, le fait qu'on en fait de moins en moins.
Les choses avancent vite, d'ailleurs. La temporalité accélérée, c'est un des problèmes de notre époque. Donc, votre livre est sorti il y a 2 ans. Aujourd'hui, vous rajouteriez un chapitre sur un problème non abordé ?
Il y a quand même des choses assez inquiétantes dans notre vie politique depuis peu de temps. On voit cet enfant. L'attitude peut-être hostile me paraît être plus forte, est apparue de manière plus évidente depuis 2 ans, me semble-t-il. Pour prendre des exemples, le dépistage à 2-3 ans, l'emprisonnement à 12 ans, ça, ce sont quand même des signes de... Et l'évaluation à l'école... absolument, tout ça sont des choses qui pourraient renforcer nos inquiétudes. Et c'est vrai que ça va très vite.